Alors, on va revenir sur plusieurs mots ou plusieurs lieux. D'abord, il est dit au premier verset que parmi les disciples, le Seigneur en désignait encore 72. Donc, au-delà du fait que ça veut dire qu'il y a plus de 72 disciples, la question c'est pourquoi est-ce qu'il en choisit 72? Et si on va regarder le livre de la Genèse, juste après le déluge, la terre est repeuplée par les descendants de Noé, par les fils de Noé et leur descendance, et la descendance de Noé après le déluge, elle est de 72. 72 nations qui sont issues donc de sa descendance. Donc il y a évidemment un parallèle ici qui est fait par Jésus. Ensuite, Genèse chapitre 10, pardon. Ensuite, on va regarder les villes, parce qu'il y en a plusieurs qui sont citées. La première qui est citée au verset 12, je vous le déclare au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Alors, Sodome, vous la connaissez sûrement, c'est une des plus importantes villes cananéennes. Et donc, si. Alors, elle n'est pas sur la carte que je vous ai donnée, parce qu'elle a été détruite, mais c'est à l'est de la mer Morte. Alors, on cherche encore un petit peu où est-ce que ça pourrait être, mais c'est à l'est. Et donc, elle est connue dans le livre de la Genèse parce que c'est la ville qui a abrité, vous savez, hein, Lot. Et puis, elle a été châtiée par Dieu, cette ville, en raison des nombreux vices qui étaient répandus en elle. Et donc, dans la symbolique biblique, Sodome devient très rapidement la ville qui symbolise l'iniquité. Donc, on voit la puissance, ou du moins l'impact que peut avoir sur son auditoire ce que dit Jésus, Sodome sera mieux traité que cette ville, alors même que Sodome, c'est la ville de l'iniquité. Ensuite, il est question de Chorazine. Et là, Chorazine, on est quand même un petit peu embêté, parce que c'est une ville qui est inconnue de tout l'Ancien Testament. Et on ne sait pas où elle se situe. Il n'y a aucune information sur Chorazine, ni dans l'Ancien Testament, ni dans la littérature. Vous savez, hein, péri-testamentaire, on n'a pas retrouvé de traces de cette ville, hormis dans le Talmud, où elle est mentionnée une seule fois, mais pour dire que son blé est de grande qualité. C'est tout. Donc, la ville a existé. Où est-ce qu'elle se situait? On n'en a aucune idée. Et il n'y a probablement pas de référence, en tout cas scripturaire.
C'est pas Chorazine à côté de Bethsaïde, au nord de Bethsaïde, c'est pas la même Chorazine.
Alors, il y a une possibilité, mais ce n'est pas prouvé, j'ai envie de dire, archéologiquement. C'est vrai que là, sur la ville, il situe Chorazine. Mais dans les livres d'archéologie, etc., là, ils disent que la ville est inconnue. Alors, on peut effectivement. Là où il la situe, c'est probable, puisqu'elle est avec Capharnaüm et Bethsaïde. Or, c'est les villes dont Jésus va parler. Donc, ce serait tout à fait probable. Mais en tout cas, dans les dictionnaires d'archéologie biblique, la ville n'est pas exactement située. Mais ça semblerait logique, effectivement, là où elle est située sur la carte. Ensuite, il y a Bethsaïde. Et donc, Bethsaïde, justement, sur la carte, on la voit, à côté de Capharnaüm. On en a déjà parlé, hein, vous vous souvenez, la maison du pêcheur, de la pêche. Et cette ville, bon, Jésus y a accompli au chapitre 9, hein, au verset précédent, des guérisons et la multiplication des pains et des poissons. Donc c'est une ville qui a vu Jésus à l'œuvre. Ensuite, il est question de Tyr et de Sidon. Donc ça, c'est pareil, elles sont sur la carte, vous les voyez, elles sont situées dans la zone syro-phénicienne. Donc ce sont des villes païennes. Et si on continue dans les villes, verset 15, Capharnaüm, donc c'est la ville qui est le centre principal, hein, des activités de Jésus. C'est probablement là qu'il résidait. En tout cas, on pense peut-être même qu'il résidait chez Pierre. On sait, alors c'est pas dans l'évangile de Luc, hein, mais que lorsqu'on vient chercher Jésus pour lui faire payer l'impôt au temple, ça se passe ici à Capharnaüm. Donc ça veut dire qu'on savait qu'il pouvait être présent, donc probablement qu'il y vivait. En tout cas, c'est une déduction possible. Et c'est quand même un lieu qui est régulièrement présent dans les quatre évangiles, et c'est un lieu où Jésus va pouvoir prêcher et guérir. Donc c'est un lieu important. Et tout en étant un lieu important, eh bien on voit ici que Jésus dit « Seras-tu élevé au ciel ?» Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Donc on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et il reste une chose à voir, on va revenir un petit peu en arrière, puisqu'on a fait toutes les villes à la suite, c'est le verset 13, « Faire pénitence avec le sac et la cendre. » Et donc c'est quelque chose qui se faisait vraiment, ce n'est pas juste une image. En cas de décès, en cas de malheur pour le pays ou de danger pour la communauté, hein, que ce soit quelque chose de personnel ou de communautaire, hein, eh bien, les vêtements qui étaient portés ordinairement sont changés contre une étoffe assez grossière qu'on appelle le sac. Voilà, donc c'est fait avec du poil de chèvre ou du poil de chameau. Donc évidemment, on pense à Jean-Baptiste, qui était habillé avec du poil de chameau. Donc c'est vraiment l'idée de la pénitence. Et c'était visible, évidemment, puisque c'était un habit, et c'était le but, que tout le monde sache que cette personne était en train de faire pénitence, ou deuil. Mais c'était, dans ce cas-là, une pénitence liée au deuil. Et la cendre, elle est souvent associée au sac, ça peut être le sac ou la cendre, le sac et la cendre, mais l'idée c'est que soit on s'assoit dans la cendre, soit on verse de la cendre sur sa tête, parce que la cendre va désigner ce qui est appelé à retourner à la poussière, mais comme on fait pour le mercredi des cendres. Et donc c'est cette idée-là, quoi. On est poussière, mais en même temps on doit compter sur Dieu, donc on fait pénitence pour attirer le regard de Dieu. Donc je vous propose qu'on regarde comment est-ce qu'on passe des 12 qui sont envoyés en mission aux 72 qui sont désormais envoyés en mission. Et c'est important parce que Luc, c'est le seul évangéliste qui signale les deux envois en mission. Celui des 12, on l'a dit, à l'instar des tribus d'Israël, vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça justement, il y a 12 apôtres comme il y avait 12 tribus descendantes de Jacob Israël. Et là, c'est les 72 disciples qui sont envoyés, et on vient de le dire, ils sont envoyés les 72 comme il y avait 72 nations qui peuplaient le monde à la suite du déluge. Donc même si ça demeure encore restreint, on voit bien que la dynamique, et on l'a déjà signalé auparavant, hein, c'est une dynamique d'élargissement de l'appel à la conversion. On l'avait vu notamment avec Jean-Baptiste, si vous vous souvenez bien. Jean-Baptiste, il n'y avait pas que des Juifs qui venaient au baptême. Et donc là, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on l'avait signé à ce moment-là. À nouveau, on voit qu'il y a une dynamique d'élargissement de l'appel à la conversion qui va d'Israël, le peuple élu, vers les païens. Et juste avant d'envoyer les 72, eh bien Jésus les invite à prier. Il les invite à prier pour qu'il y ait d'autres disciples qui puissent les rejoindre. Et pour ça, il va s'appuyer sur l'image bien connue de la moisson, une moisson dans laquelle c'est Dieu qui est le maître de la moisson. Les ouvriers, eh bien, ce sont ceux qui sont envoyés. Le temps de la moisson, c'est celui de la prédication. La moisson, eh bien, ce sont tout simplement les enseignements de Jésus. Et l'abondance de la moisson, c'est la portée salvifique. Donc ça veut dire que quand Jésus dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Si on veut comprendre ce qu'il veut dire en enlevant du coup le voile de l'image, ça voudrait dire « Les enseignements du Christ, donc les enseignements que je vous donne, sont ceux qui donnent la vie éternelle, mais les prédicateurs de ce message sont peu nombreux, alors priez Dieu d'envoyer de nouveaux prédicateurs pour l'annonce de la bonne nouvelle. » Et tout de suite, ça prend sens pour nous qui connaissons la suite, parce que on sait très bien que Jésus va effectivement ensuite envoyer tout le monde en mission. Donc les 72, ils ont été désignés par Jésus, et encore, on voit bien que Luc utilise non pas Jésus, mais le Seigneur. Alors s'il utilise le Seigneur plutôt que Jésus, c'est probablement aussi parce qu'il veut souligner que cet appel, c'est un appel qui vient d'en haut, quoi. Donc, ils sont envoyés. Donc, si ce sont des envoyés de Dieu, leur foi doit paraître, elle doit se refléter dans leur abandon. Un abandon qui est celui à la providence de Dieu. Et donc, c'est pour ça que Jésus leur demande de ne même pas emporter le minimum vital. Ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne, parce que la mission, c'est quelque chose d'urgent. Et puis, par contre, vous pourrez manger et boire ce que l'on vous sert, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il y a vraiment cette idée que le témoignage de foi va venir du dépouillement, en partie. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ils y croient tellement qu'ils le vivent. Et, si vous vous rappelez bien, ça fait écho à ce que Jésus a demandé déjà à ses disciples au chapitre 9, verset 23. « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et bien là, en fait, par le dépouillement, ils invitent à renoncer à eux-mêmes, à toute la sécurité. Bon, ils envoient en mission, très bien, et comme pour les 12, il les reçoit à leur retour. Et le retour des 72 est particulièrement intéressant. Parce que comme les 12, ils rentrent, ils sont tout à fait enchantés. Ils partagent leur joie parce qu'ils ont chassé les démons, ils l'ont fait au nom de Jésus, et Jésus confirme « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Donc la mission a porté du fruit. Satan est vaincu, le règne de Dieu qu'ils étaient partis annoncer est bien arrivé. Satan laisse place. Mais comme on le disait la semaine dernière, à la fin du chapitre 9, les 12, ils semblaient s'être un petit peu enorgueillis du succès de leur mission. Et on a bien vu qu'à la fois, on avait l'impression qu'il y avait une église qui montait en puissance et que Jésus était en train de fonder, et d'un seul coup, il y avait une espèce de discorde entre les 12 et Jésus. Et donc ici, on voit bien que Jésus va, je ne sais pas s'il change de stratégie, mais en tout cas, il va faire quelque chose qu'il n'avait pas fait avec les 12. Si les 72 sont en train de dire « c'est super, on a chassé les démons en ton nom », Jésus va corriger aussitôt l'origine de cette joie. C'est ce qu'il leur dit, il ne faut pas se réjouir du pouvoir de chasser les démons, il faut se réjouir d'être aimé de Dieu. Donc Jésus tout de suite détourne le regard de la performance pour faire apparaître autre chose, l'appartenance. Vous êtes dans une filiation divine, il n'y a que ça qui compte. Et on voit comment est-ce que, effectivement, le fait de ramener non pas à ce que j'ai fait, mais à ce à quoi ou à qui j'appartiens, devrait créer l'unité. Alors ensuite, ou du moins les versets 13 à 15, donc entre les deux passages, entre l'envoi en mission et le retour de la mission, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est Jésus qui désigne dans son oracle de malheur la ville de Chorazine, alors même que, on l'a dit, elle est inconnue dans l'Ancien Testament, mais il fait la même chose pour des villes comme Capharnaüm et Bethsaïde, alors même qu'on sait qu'il a accompli là-bas des guérisons. On a lu qu'il semblait plutôt avoir été bien accueilli, donc c'est assez surprenant. Et à l'exclusion de la plupart des pharisiens et des élites qui, effectivement, vont venir quereller Jésus, la bonne nouvelle annoncée par Jésus semble quand même avoir été reçue depuis le chapitre 5, depuis qu'il a pris avec lui Pierre et ses associés et qu'ils sont partis sur les routes. On a plutôt l'impression que ça se passe bien. On avait même souligné que lorsque Jésus revient du côté païen de la mer de Galilée, il y a un peu une sorte de triomphe, puisque c'est un dignitaire, cette fois-ci juif, qui vient se jeter à ses pieds pour lui demander une guérison. Et pourtant, Jésus a cet oracle de malheur. Alors sûrement, est-ce qu'il faut comprendre ici que même si tous les miracles, les guérisons ont pu susciter un enthousiasme réel, peut-être qu'il n'y a eu que peu de conversions finalement qui ont suivi, de conversions sincères. Et donc, Jésus, qui marche désormais vers Jérusalem, va apparaître comme un prophète rejeté. Or, si vous vous souvenez bien, au chapitre 6, dans les « Heureux et quel malheur pour vous », vous vous rappelez, il y avait celui des vrais et des faux prophètes. Or, le propre du vrai prophète, c'est d'être rejeté. Et donc on voit comment est-ce que, à ce moment-là, Saint Luc amène l'idée que Jésus est bien le vrai prophète. Parce que à ce moment-là, il est obligé de faire un oracle de malheur, c'est-à-dire, on avait déjà précisé, un oracle de malheur, ce n'est pas une malédiction, c'est une mise en garde. Et donc il met en garde ces villes-là, parce qu'en fait, elles ne se sont pas suffisamment converties. Et il part à Jérusalem, il quitte le lieu. Et enfin, on a les versets 21 à 24, à la fin, qui vont mettre cette en avant la relation unique qui unit le Père au Fils, une relation qui est révélée sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Donc, les disciples semblent ici être les tout-petits, parce que c'est à eux que Jésus révèle l'importance du moment qu'ils sont en train de vivre. C'est à eux qu'il est en train de dire « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». Et il y a eu des grands avant eux, il y a eu les témoins du passé. Aussi grands soient-ils qu'Abraham, que Jacob, que Moïse, que David, Salomon, Isaïe, etc. Eux, tous ces grands-là, de l'histoire sainte, eux, ils n'ont ni vu, ni entendu, ni connu le Fils, alors même que le Fils seul peut révéler le Père. Donc si les disciples qui sont présents passent pour les tout-petits, c'est bien à eux qu'est révélé effectivement le Fils qui conduit au Père. Les disciples ne sont ni des patriarches, ni des rois d'Israël. Ils ont une mission prophétique, mais sans être pour autant des prophètes de l'envergure d'un Élie ou d'un Isaïe. Mais pourtant, eux, ils connaissent Jésus. Et donc, c'est ce qui les rend presque plus grands, en fait, que tous les autres. Et on voit bien l'idée de renversement qui est assez propre à Jésus, qui ici, à nouveau, est à l'œuvre.